Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Suite à l'incendie qui a touché la maison de Radio France vendredi dernier, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer la diffusion de l'émission initialement prévue. C'est une rediffusion que nous vous proposons aujourd'hui, celle d'une discussion entre Arnaud Desplechin et Elisabeth Roudinesco autour de psychanalyse et cinéma. Hey, you know what? Les Nouveaux Chemins se demandent tous les jours comment la pensée advient à l'écran, en compagnie de Marianne Chassor, Jean-Daniel Loup, Géraldine Mosna-Savoie, Valentin Schmitt et Mathilde Wagman, à la réalisation de western onirique Olivier Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son Philippe Palares. Bienvenue sur le vendredi des Nouveaux Chemins, où chaque semaine nous donnerons la parole à ceux qui réconcilient philosophie et actualité sous toutes ses formes. Table ronde autour des nouvelles parutions, analyse d'enjeux politiques, masterclass avec un philosophe au parcours singulier et réflexion philosophique à partir d'un film ou d'un roman contemporain. Une émission en partenariat avec le Nouvel Observateur qui se terminera par la chronique livre d'Éric Eschiman. Cette semaine, déplaçons la philosophie hors des essais et des livres et essayons de penser non pas sur, mais avec un film, Jimmy P, d'Arnaud Desplechin, sorti en salle mercredi 11 septembre. C'est Nora, dans Rois et Reines, qui a la peau du ventre brûlée à l'endroit où elle a caché la lettre écrite par son père pour lui confesser la haine qu'il lui porte. C'est Henri Vulliard, d'un conte de Noël, qui s'effondre la tête la première du haut des 10 cm du trottoir. Ce sont les traces laissées sur les corps qui expriment la douleur, l'inavouable, la rage d'un père jaloux de sa fille, l'aveu du « je ne t'ai jamais aimé » entre une mère et son fils. Ces marques, ces phrases, sont autant d'indices que le spectateur des films d'Arnaud Desplechin doit récolter et déchiffrer afin d'ajouter au plaisir jubilatoire d'assister à ces fresques de déchirement familial, celui de mener une enquête dont il sait d'avance qu'elle n'aboutira pas. Ça, c'était avant. Avant que cette façon qu'a l'esprit d'investir le corps ne devienne le sujet du dernier film d'Arnaud Desplechin, Jimmy P, où pour la première fois, la folie devient l'objet du film. La folie, mais surtout, la guérison. Or, comment filmer une analyse ? Quelles images choisir pour faire advenir ce travail, ce combat inconscient mais bien réel, que seule la parole peut apaiser ? Et d'ailleurs, comment le sens et la signification arrivent-ils à l'image ? Jimmy P, c'est l'essence même du cinéma mise à l'épreuve de la cure psychanalytique. Listen to life you are living. You're only half alive.
Next, please. Name, please.
James Picard.
When were you demobbed?
February 1945.
Division?
66 Armored Regiment Vancouver Corporal. There
you go. Do you know your blood type?
No, ma'am.
Are you married?
Divorced.
Any children?
Not exactly.
How can someone not exactly have children?
Another man brought up my daughter.
Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour.
Bonjour Elisabeth Roudinesco.
Bonjour.
Qui se trouve à vos côtés, Arnaud Desplechin, puisqu'Elisabeth, vous avez participé à la préparation de ce travail sur ce film, donc Jimmy P, dont nous parlons aujourd'hui. Le film est sorti mercredi dernier, mercredi 11 septembre, et le film raconte plusieurs histoires. Arnaud Desplechin, selon vous, quelle est l'histoire ou quelles sont les histoires que raconte ce film ?
Je pense que c'est l'histoire j'espère être dans ce sens-là très proche de ce qui m'a frappé dans le livre de Desvreux, du coup de foudre que j'ai eu pour le livre. C'est la rencontre entre un Européen et un Amérindien. Donc deux personnes qui ne sont pas américaines et deux personnes qui sont déplacées, un exilé de l'intérieur qui est Jimmy et un exilé tout court qui est Georges Desvreux. Bien sûr, c'est une psychanalyse, mais écrivant le scénario, j'ai essayé de décaler l'angle d'attaque en me disant c'est une histoire d'amitié, c'est l'histoire de l'amitié entre deux hommes que tout sépare. C'est ces deux hommes qui n'auraient pas dû se rencontrer, qui sont de tempéraments aussi très différents, l'un étant le sauvage, ça c'est le psychanalyste, et l'autre étant l'homme très poli et très modeste, ça c'est l'analysé, et c'est la rencontre et c'est le trajet qu'ils vont faire l'un et l'autre et s'inventer l'un et l'autre.
Le film est une forme libre d'adaptation d'un texte qui existe, qui est l'écriture de Psychothérapie d'un Indien des Plaines. C'est le titre français, Dream and Reality en anglais, écrit par le, alors comment le nommer, le psychanalyste, l'ethnologue Georges Devereux, que je vous laisse présenter, Elisabeth Roudinesco.
Oui, c'est en effet cette rencontre, sauf qu'il y a un point commun, il y a deux melting pots. Devereux, d'une part, vient d'Europe centrale, c'est pour ça qu'il n'a pas une nationalité fixe, il était de naissance hongrois dans un pays qui était encore rattaché à la Roumanie, donc il est hongrois, mais tout ça va être changé par les traités de Trianon et de Versailles. C'est le melting pot de la naissance de la psychanalyse. Donc il n'a pas une identité fixe. Et le melting pot de Topeka, où a lieu dans les années 50 cette analyse qu'on appelait la Mecque de la psychiatrie, Topeka, ça réunissait 1950 des immigrés juifs qui avaient fui le nazisme, hein, Menninger, de toute façon, il était là, et puis on les voit tous, il y avait les immigrés juifs, il y avait les patients qui étaient des Amérindiens, des vétérans, il y avait les névroses de guerre, c'était médical, on s'occupait de la folie, mais aussi de neurologie, et en même temps, il y avait toutes les identités. Voilà. Donc c'est logique qu'il se soit retrouvé là. Et quant à Devereux, il avait passé toute sa jeunesse à Paris, donc il était plutôt français. Ensuite, il a fait la guerre dans l'armée américaine. Et puis, il avait été l'élève d'Alfred Kreuber, le grand anthropologue, psychanalyste aussi. Et puis, il était allé en Indochine. Il était passionné par tout ça. Mais la naissance de ce qu'on a appelé l'ethnopsychanalyse ou l'ethnopsychiatrie, c'est la même chose, hein, c'est des deux mots. Il y a une ambiguïté, que ce soit chez Devereux ou Kesar-Hoheim. En fait, Kesar-Hoheim était plutôt kleinien et lui, freudien orthodoxe. En réalité, il s'agit de psychanalyse dans une position universaliste. Bien entendu, la diversité des cultures compte, mais Devereux est tout autant anthropologue que psychanalyste, ce qui veut dire qu'il est mal vu des psychanalystes, notamment dans les années 50, puisqu'il faut être que psychanalyste. Il y a un côté très normatif. Il est mal vu des anthropologues parce qu'il est psychanalyste. Et puis, il a ce côté, en effet, sauvage, marginal, avec toute une histoire compliquée. Hein. Il n'est pas dans les normes. Il n'est pas dans les normes. Et pourtant, sur le plan idéologique, c'est un freudien orthodoxe. Donc, cette cure est orthodoxe des années 50 aux États-Unis.
C'est-à-dire qu'il procède par l'analyse des rêves, par la prise en compte de la sexualité.
Il est entièrement freudien. Hein. Kesar-Hoheim, qui est aussi qui fait partie de l'école de l'ethnopsychanalyse un peu plus tard, de la même génération, lui, il était d'orientation kleinienne, donc il cherchait plutôt. Kesar-Hoheim est allé analyser les Mélanésiens pour contrer Malinowski. Bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, à Topeka, dans cette situation-là, c'est une analyse classique, freudienne. Mais toute analyse respecte la diversité tout en analysant un sujet singulier.
Là, la spécificité de cette rencontre entre l'analyste et l'analysé, c'est que ce sont deux personnes qui se vivent comme étant exclues d'un côté l'Indien, de Jimmy Pickard, dont on a entendu la voix en début d'émission, qui essaye de se présenter, parce qu'il répond aux questions de l'infirmière, il donne des informations sur son état civil, sur son statut marital. Et l'identité qu'il fournit à ce moment-là ne correspond pas à la sienne, qui se sent comme un Indien. Il appartient à une forme de communauté indienne dont il essaye de se détacher. Et de l'autre, ce Georges Devereux, qui, lui, français, roumain, aux États-Unis, qui est rejeté par la communauté psychanalytique. Si bien que la rencontre entre les deux n'est pas seulement une rencontre médicale, où l'enjeu serait de guérir quelqu'un, mais c'est la rencontre entre deux individus entre lesquels un lien va se tisser. Et ça, c'est ce que vous montrez très bien à l'écran, Arnaud Desplechin, avec cette utilisation de plans peut-être plus resserrés, plus rapprochés que les plans auxquels on était habitué à voir dans vos autres films, où les personnages prennent toute la place. C'est vraiment le jeu de regard et de corps entre ces deux personnages qui est important.
Oui, c'est le film est vraiment autour de ces deux hommes. Je vous disais, c'est une histoire d'amitié, donc on colle vraiment au visage à essayer d'attraper ces mots qui s'échangent, qui butent. C'est lapsus, cette écoute étrange qui est l'écoute de la psychanalyse. Où est-ce que vous écoutez l'autre? Mais si vous écoutez l'autre, vous écoutez aussi ce qui se dit d'autre à l'intérieur de la parole. Vous voyez, vous n'écoutez pas juste un camarade qui parle en face, c'est que vous essayez d'entendre ce qui se dit à mi-mot à l'intérieur de la parole du patient. Donc ça conditionnait une façon de filmer peut-être un petit peu différente.
Et c'est-à-dire, précisément, comment est-ce que votre choix de filmer d'une manière plutôt que d'une autre, avec telle lumière plutôt qu'une autre, puisque chaque séance a été filmée avec une lumière différente, dans un cadre différent, comment est-ce que ce choix-là a essayé de révéler le processus de l'analyse?
Ça, c'est tout le jeu qui est rigolo au cinéma, c'est d'essayer de varier, c'est les variations pour essayer de transformer un matériel qui est assez aride, parce que le livre Psychothérapie d'un indemnité de plaine est assez aride, essayer de le transformer en spectacle de cinéma. Donc on essaye de faire des variations, et le tournage aussi était très conditionné par sa fabrication. On a fait le film très vite, ce qui m'allait bien, puisque je me voyais mal sur la psychanalyse, me retrouver à faire 10 ou 20 ou 30 prises. Si vous voulez, il fallait qu'il y ait retrouver une spontanéité de la parole, sinon j'aurais usé le jeu des acteurs. Et donc on essaye de varier, comme vous disiez, les lumières, la façon de filmer, et de se dire vraiment tous les trois, Mathieu, Benicio et moi-même, de se dire voilà ce qu'on veut raconter dans cette séance-là, voilà le progrès qui est fait, voilà ce qui est découvert, voilà ce qui reste non dit, et voilà donc d'avoir une idée très très précise de ce que chaque séance est en quoi chaque séance est un progrès, et d'essayer de filmer ce progrès seul.
Mathieu Amalric qui joue le rôle de Georges Devereux et Benicio del Toro celui de Jimmy Picard. Elisabeth Rodinesco.
Ce que je trouve très étonnant finalement du Melting Pot, c'est un hispanique américain qui joue le rôle de l'Indien. C'est un Français, Mathieu Amalric, qui tourne en anglais avec un accent. Il a reconstitué l'accent hongrois alors qu'il ne l'a pas. Et le film est un film américain tourné par un Français. Donc là, c'est le rêve. En quelque sorte,
c'est un
rêve de Melting Pot. Et ça correspond très bien à cette clinique de Topeka dont on a découvert, enfin moi je savais qu'elle n'existait plus, mais j'hésitais, elle n'existe plus parce que ce genre de grand hôpital de vétérans a disparu, donc il fallait reconstituer, et une des premières choses que je me suis demandé c'est comment vous alliez faire. Et ce que je trouve formidable dans le film, c'est que c'est un film de rêve, on dirait du Hitchcock à certains moments, puisque les films, c'est comme dans Hitchcock, rêve et réalité se confondent. Ce sont des paysages américains filmés à la Denny Hopper, quand même, vous y avez pensé. Donc, c'est une Amérique irréelle. Et je pense que c'est aussi une Amérique pour cinéphiles. C'est-à-dire, c'est plus l'histoire du cinéma américain qu'on retrouve dans ce film qu'une Amérique réelle reconstituée, me semble-t-il.
Oui, le film est traversé de souvenirs de films américains qui m'ont formé, bien sûr.
Ce rêve, tu sais que tu l'as déjà fait? Il se rapporte à quelque chose qui t'est arrivé un jour?
Non, j'ignore ce qu'il peut vouloir dire, rien sans doute.
Il se rapporte à ta mère, elle veut que tu te lèves.
Oui, mais d'abord j'entends frapper 3 coups. Ensuite elle dit, lève-toi Marnie, il faut te lever maintenant. Mais je veux pas lui obéir. Je sais que si je me lève, j'aurai froid, qu'ils lui font du mal.
Il, qui ça il?
J'en sais rien, mais j'entends ces coups, j'ai froid, j'entends ces coups.
Mais quels coups, des bruits de quel genre? Qui fait ces bruits?
Oh. Tu te prends pour Freud? Dis Marc.
Si tu ne veux pas voir de psychanalyste, essaie au moins de t'en tirer toi-même.
Mais c'est bien pour ça que j'en suis là. C'est pour avoir cherché à m'en sortir toute seule. Non, laisse-moi tranquille, Marc, je t'en prie.
Si je te donne certains ouvrages, tu les liras?
Ceux que tu potasses? La frigidité féminine? La psychopathie des délinquants et criminels?
Tu les as lus?
Oh, inutile de lire toutes ces immondices pour savoir que les femmes sont stupides et faibles et les hommes de répugnants pourceaux. Au cas où tu ne le saurais pas, c'est ce qu'on nomme un refus. Mais pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tranquille?
Parce que je te crois malade, très cher.
Je suis malade? Eh bien, est-ce que tu t'es regardé dans une glace, mon cher? Avant d'aller quêter pour la semaine de la santé mentale, occupe-toi de la tienne. Examine donc tes complexes. Tu fais une fixation pathologique sur une femme qui est non seulement une menteuse et une criminelle, mais qui hurle chaque fois que tu t'approches d'elle. Allons, parle-moi de tes rêves, cher ange gardien.
Que vois-je au ciel? C'est moi, c'est la folie qui vient de dérober la lyre d'Apollon.
c'était la folie d'après Rameau. Alors, l'extrait de Pas de printemps pour Marnie qu'on vient d'entendre était particulièrement intéressant par rapport à la discussion que nous avons aujourd'hui, puisque il montre bien ici, en fait, on a Sean Connery qui est en train d'analyser Tippi Hedren et qui elle-même lui renvoie à son espèce d'attitude, disons, trop intellectuelle de freudien qui pense qu'il va comprendre le monde en lisant des livres. Et, c'est un aspect que vous abordez peut-être indirectement dans votre film Arnaud Desplechin, puisque le médecin, Georges de Vereux, est d'abord malade quand il commence l'analyse. On sent que son corps prend le dessus, il est enrhumé, on lui voit faire des bains de pieds pour essayer de s'apaiser. Il est en souffrance.
Ce qui est arrivé dans la vraie vie, ce qui est dans le livre.
Voilà, mais ça, vous le montrez de manière assez drôle, finalement, puisqu'on voit que lui qui est censé avoir la figure du sauveur et celui qui est malade et faible, qui a une vie sentimentale, on le voit assez chaotique. Mmh. Et même l'utilisation des plans dont nous parlions avant montre cette interchangeabilité entre le médecin et le patient. Et on ne sait plus s'il s'agit d'une amitié, d'une cure, ou si tout simplement, comme semble le suggérer aussi le film d'Hitchcock, ce genre de travail analytique peut être effectué entre deux personnes en dehors d'un cabinet.
Il y a une chose qui me touche très fort, mais j'exprimerai avec mes mots à moi, c'est le fait, il me semble, c'est un des premiers pas qui sauve Jimmy de cet isolement dans lequel il se retrouve à Topeka, étant un des rares Amérindiens qui se retrouve dans cette institution, c'est l'amour pour autrui. C'est tout d'un coup, il voit ce type, il y a cette espèce de coup de foudre entre cet analyste et ce patient, et un truc d'amitié immédiat qui arrive de manière très immédiate. Je pense peut-être ça tient tout bêtement au fait que la première question que lui pose Desvreux, c'est quoi votre nom? Lui, il dit Jimmy Picard, il dit non, c'est quoi votre nom indien? C'est une question très simple, mais une question que personne d'autre ne lui a posée. Et tout d'un coup, quand Desvreux tombe malade, on voit le Jimmy qui regarde et avec inquiétude vers le bungalow où se retrouve Desvreux. Il est avec un infirmier et puis il demande, mais ça va bien, il va mieux. Il y a tout d'un coup ce souci pour autrui et tout d'un coup, il n'est plus que... Il cesse d'être centré comme ça sur sa propre santé à lui, mais tout d'un coup, il a cette envie de protéger autrui. Et ça vient presque le sauver. Il y a un geste qui me touche, c'est va se laver les mains pour être sûr avant de rencontrer le Desvreux qui se recouvre et qui est encore en mauvaise santé. Il va se laver les mains pour être sûr de ne pas avoir de germes. Il lui serre la main comme s'il lui prenait la température en lui tenant la main, en disant vous allez mieux. Et ce souci pour autrui commence, et vraiment le premier pas qu'il fait vers sa propre guérison. Cette interchangeabilité des rôles comme ça me plaît très fort.
Et qui va jusqu'au bout du film, puisqu'à la fin du film, on voit Desvreux lui-même reprendre une analyse, comme si la cure qu'il avait dispensée au patient qui est Jimmy P avait aussi conduit peut-être à lui-même soit rouvrir des blessures, soit lui donner le désir de continuer.
Ben lui
il était en analyse.
Oui, en tout cas,
le film ne le montre qu'à la fin.
Ne le montre qu'à la fin, oui. Mais il me semble qu'il y a le film s'appelle Jimmy P. Il y a un mouvement comme ça dans le film, c'est ce qui me touche très fort dans le livre, c'est que c'est un personnage qui est sorti de l'anonymat. Alors Jimmy P, ce serait comme Anna O, hein, on ne sait pas, nous avons fait des recherches et on n'a pas réussi à retrouver le patronyme anglais de Jimmy, ça c'est vraiment...
On n'a pas trouvé.
On a réussi à trouver, on est très fiers, on a réussi à trouver la réserve d'où était originaire Jimmy, et là-bas, même en parlant avec les gens, comme le nom amérindien de Jimmy signifiait Everybody Talks About Him, tout le monde parle de lui, et c'est à peu près comme Dupont en France, c'est-à-dire qu'on a rencontré un nombre de familles qui s'appelait comme ça, et chacun disait non, c'est mon oncle, non, c'est mon oncle. Bref, on n'a pas réussi à retrouver la vraie identité. Mais donc, Jimmy sort de l'anonymat parce qu'il a rencontré Desvreux, et nous parlons de lui aujourd'hui, nous parlons de cet homme, de son rapport avec les femmes, de sa singularité. Il est sorti de l'anonymat, et il y est retourné après, il disparaît à la fin du livre, il retourne et il se mêle à l'Amérique, il devient américain en quelque sorte, il disparaît dans le paysage. Mais d'un autre côté, même si Desvreux avait déjà écrit sa thèse sur la sexualité des Indiens Mohaves, je pense que si nous connaissons aujourd'hui Desvreux, c'est parce qu'il a rencontré Jimmy. C'est ça qui fait de lui un analyste. Il arrive là-bas, c'est un homme qui a une vie un petit peu chaotique, il n'a jamais eu de patient, pas vraiment. Il a vaguement traité une femme une fois à Topeka, mais il est toujours pas embauché par l'institution. Et c'est Jimmy qui invente son analyste, qui fait de lui un analyste, et on le voit Mathieu Amalric très sérieusement, qui suit sa psychanalyse didactique à la fin du film, et qui devient psychanalyste, qui est vraiment inventé par son patient. Et ce double mouvement mouvement d'invention de soi à travers l'autre qui me semblait guider
et
le film.
Et c'est ça, ce mouvement d'invention de soi à travers l'autre est aussi, c'est la base même, le sens sans doute d'une cure ou d'une analyse, Elisabeth Roudinesco, mais là où le sujet du film est particulièrement intéressant d'un point de vue psychanalytique, c'est que la façon qu'a un sujet de naître à lui-même au sein d'une communauté est traitée de part et d'autre, puisqu'en l'occurrence, il s'agit pour Jimmy P d'arriver à naître pour ce qu'il est, à naître du verbe naître, pour ce qu'il est, indépendamment de la communauté à laquelle il appartient.
Et c'est valable aussi pour Devreux, dont je vous rappelle qu'il avait fait une analyse ratée avec Schlumberger à Paris, où ça n'avait pas du tout marché. Marc Schlumberger était un orthodoxe qu'il a d'ailleurs trahi, puisqu'il a envoyé une lettre disant qu'il n'était pas capable d'être didacticien. Et donc, en effet, il reprend une cure, et vous avez parfaitement raison, c'est par le patient qui devient analyste. Mais c'est un classique hein, dans l'histoire de la psychanalyse. Il y a toujours un cas princeps dans l'histoire d'un grand psychanalyste. Ça a été établi. Il y en a plusieurs pour Freud. Et quand on a d'ailleurs retrouvé la vie de chacun, Anao n'est pas Anao. Hein. Bertha Papenheim n'a rien à voir. Donc quand on trouve l'histoire des patients, on peut dire aujourd'hui, puisqu'on fait beaucoup l'histoire des patients, l'histoire de la psychanalyse, j'avais d'ailleurs, quand je le préfaçais, cherché les traces de Jimmy P, on sait que les psychanalystes fondateurs adviennent à l'analyse par ce qu'on appelle un cas principe, c'est-à-dire un grand cas. Je voudrais faire une comparaison de 2 minutes, si je peux me permettre, avec Marnie. Parce que dans Jimmy P, j'ai pensé tout le temps à Marnie. Je trouve qu'il y a...
Pas de printemps pour Marnie, le film d'Hitchcock, quand on a entendu un extrait juste
avant. Pas de printemps pour Marnie. Pourquoi ? Parce que je trouve que l'Amérique reconstituée par Hitchcock, ça ressemble à ce que vous avez fait, c'est des cartons-pâtes, hein, enfin Philadelphie reconstituée. Je trouve qu'il y a... c'est un grand classique, Marnie, c'est évidemment cet homme qui tombe amoureux, fou, d'une femme qui est kleptomane et frigide. Donc, elle a raison de lui renvoyer qu'il va peut-être pas si bien que ça, malgré sa milliardaire, malgré les apparences de la plus grande normalité de la côte Est. Et il y a aussi un point commun, Marnie est une cure psychanalytique dans la plus grande tradition du freudisme, puisqu'elle va retrouver la causalité de ses phobies et de ses problèmes à la fin du film, puisque c'est elle qui a tué le client que recevait sa mère, et ça se termine bien. Donc c'est une guérison où le mari occupe la place de l'analyste face à la patiente, qui lui renvoie exactement ça. Et donc il y a beaucoup d'analogies entre les deux. Vous y avez pensé, je suppose.
J'y ai pensé, c'est un des deux premiers films de Hitchcock dont je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux beaucoup plus tard de Vertigo, mais peut-être c'était la puissance érotique du film Marnie qui est très très
fêté.
C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment, j'ai des souvenirs d'enfance comme ça. C'est celui-là et Notorious, c'est les deux premiers films qui m'aient fasciné à ce point-là. Mais peut-être celui-là plus encore parce qu'il y avait le danger de la sexualité qui était extrêmement attrayant dans le film.
Mais dans Pas de printemps pour Marnie, l'analyse n'est qu'un sujet parmi d'autres dans le film. Le film ne donne pas à voir une cure qui serait filmée du début à la fin, comme c'est le cas dans Jimmy P.
À la rigueur,
dans les films
c'est
d'Hitchcock,
masqué.
Ce serait peut-être La maison du docteur Edwards, où on voit un peu plus ce phénomène-là de cure et de guérison.
Je trouve que le docteur Edwards, c'est un moins bon film que Marnie.
Alors ça, d'un point de vue cinématographique...
Bon, bien entendu, je pense, c'est ce que j'ai toujours pensé dans le cinéma américain, il y a un autre très grand film qui est d'Elia Kazan, qui ressemble et qui est La fièvre dans le sang. Je crois que le cinéma américain a beaucoup mieux, Hitchcock reconstitue mieux ce qu'est une cure dans Marnie que dans Dr. Edwards.
Voilà, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir le glissement qu'il peut y avoir entre un film que vous avez pu faire avant Arnaud Desplechin, que ce soit Rois et Reines ou Conte de Noël, où il est question de psychanalyse de manière peut-être plus périphérique, où c'est souvent Mathieu Amalric d'ailleurs qui joue le rôle du celui
patient
qui est fou, soi-disant, voilà, et qui refuse de se faire interner, qui résiste contre ça, qui joue d'ailleurs beaucoup le rôle de ressort comique dans ces films-là, pas seulement, mais aussi qui fait beaucoup rire. Et donc ici, où la cure serait peut-être plus annexe, jusqu'à Jimmy P, où là, c'est vraiment le sujet du film. Et quand même, insistons là-dessus, ça relève quand même d'un défi énorme que de filmer une cure. C'est une chose de l'écrire, comme c'est le cas de Georges Devereux, qui écrit chaque séance du début à la fin, chaque séance qu'il a avec Jimmy P. Vous en faites un film. Qu'est-ce que vous cherchez à filmer ?
J'ai commencé l'écriture avec beaucoup d'appréhension en me disant est-ce que je peux rendre ça, est-ce que je peux transformer ça en matériel cinématographique. Il me semble qu'il y a un trait dans cette cure-là et chez ce patient-là, chez Jimmy, il a une façon de se faire le romancier de lui-même, de se faire le narrateur de lui-même, qui est très particulière, qui me fait penser, moi, très fort à des personnages des romans de Thomas Hardy. Vous voyez, je pense à Jules l'Obscur, à des choses comme ça. Il y a cette longue séance dans le livre qui est admirable, et je savais que ça me permettait un flashback de retourner, d'aller filmer les scènes dans la réserve sur la jeunesse de Jimmy, où Jimmy, tout d'un coup, raconte ces femmes qu'il a mal su aimer, cet enfant qu'il n'a pas su reconnaître, et tout d'un coup, il y a une façon de regarder son sort comme ça, sa vie comme marquée par le saut de la fatalité ou du destin. Il a une façon de penser, de se regarder lui-même comme un personnage très romanesque. Du coup, je pensais qu'il pouvait y avoir vous voyez, que ça pourrait créer un tissu de film, un tissu romanesque dans le film, plutôt que une austérité psychanalytique, mais un fourmillement romanesque qui existe chez Jimmy lui-même.
Et d'ailleurs, vous êtes allé jusqu'à filmer les scènes de rêve elles-mêmes.
Bah, oui, ça c'était très excitant.
Ouais, enfin,
très excitant. Je pensais aussi à un film qui me nourrit vraiment chaque semaine, qui est Les Fraises Sauvages de Bergman. C'est l'idée qu'il y a comme un film de psychanalyse. Et c'est l'idée de plonger en soi-même, d'être dans ce territoire étrange où on est entre les rêves et la réalité. Reality and Dream, vous disiez, c'est le titre.
C'est le titre original du livre.
C'est aussi une des raisons de la rencontre entre les deux hommes. Parce que quand Jimmy arrive à Topeka, il le dit dans le film, il dit, je ne sais plus, il parle de ses rêves, il dit, je ne sais, à un psychiatre caucasien, il dit, je ne sais plus si je suis réveillé ou si je suis endormi. Et alors là, ça c'est le signe, on se dit, ah ben c'est peut-être un cas schizophrène. Mais Jimmy vient d'une culture du rêve. Donc les
ça, De Vreux le dit très bien dans son livre d'ailleurs, il parle de la culture du rêve des Indiens.
Oui, mais il y a aussi autre chose, parce que je pense que filmer que la cure aurait été...
Trop austère.
Ce qui est bien aussi, c'est qu'on montre très clairement le débat de Topeka, le débat intellectuel de Topeka. On appelle De Vreux, et ça c'est exact, parce qu'on ne sait pas faire le diagnostic de cet homme.
Voilà, donc, on dit qu'il est schizophrène, sans qu'on sache vraiment ce qui se passe.
Oui,
voilà.
Mais ils hésitent, parce que si vous voulez, Topeka, il y a la partie asile fermée, et on confronte Jimmy à des schizophrènes dangereux. Il est absolument terrifié, il n'a rien...
La scène du couteau.
Et donc, il n'a rien à voir avec tout ça, ce qui est parfaitement exact. Donc, les médecins hésitaient, parce qu'ils voyaient bien, d'où d'ailleurs les analyses du cerveau, etc., puisqu'on se demandait si la folie était d'origine cérébrale. Et du coup, on appelle De Vreux parce qu'on pense qu'il va mieux connaître la culture indienne. Et en fait, on appelle un psychanalyste freudien classique qui va surtout leur dire « cet homme est névrosé », c'est-à-dire comme vous et moi. Bon. Et donc, il faut le sortir de la partie asilaire. Donc là, on voit bien le débat, qui est d'ailleurs très actuel hein, aujourd'hui, la différence quand même entre... C'est pas un cas de folie, hein, c'est un cas de névrose.
Ça fera bientôt 8 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé, une nuit elle ira leur voler, leur 8 années. Tiens, v'là la main comme le jour de la reblanche. Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ses blouses blanches? Non, puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle!
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les vendredis des nouveaux chemins, où nous parlons aujourd'hui du film d'Arnaud Desplechin, Jimmy P, en compagnie d'Arnaud Desplechin et d'Elisabeth Rodinesco.
À chaque fois, il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches. Elles lui disent non, vous n'êtes pas folle, pas folle, pas folle. Les blouses blanches, elle aussi, elle en a eu une blouse blanche. Ah non, c'était une robe. Petite robe blanche, une petite robe blanche avec des fleurs. Il y avait du soleil tout autour des fleurs. Et dans sa main à elle, il y avait une main, une belle main avec des doigts qui chantaient, qui chantaient, qui chantaient. Oh, encore les blouses blanches. Ça fera bientôt 8 années qu'elle est internée, oui, internée avec les fous, avec les fous. Un grand trait sur les 8 années, tout comme si rien ne s'était passé. Une nuit, elle ira leur voler leurs 8 années. Tiens, v'là la main comme le jour de la robe blanche. Mais pourquoi qu'elle a mis toutes ses blouses blanches? Non, puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Voyez bien que c'était vrai. Moi, je savais qu'elle reviendrait. La main, la belle main qui riait, riait, riait. On s'aimera toujours, mon amour. Toujours, mon amour, toujours.
Le rire d'Edith Piaf qui laisse penser qu'effectivement, je ne sais pas si nous sommes tous fous, mais nous sommes tous névrosés, c'est ce que vous disiez, Elisabeth Roudinesco. Restons un instant sur cette question de la folie, puisque certes, il n'est peut-être pas fou, et la folie est d'ailleurs une notion qui est difficile à diagnostiquer. À partir de quand un patient est-il véritablement fou? Les critères peuvent changer. En l'occurrence, la grande valeur ajoutée de la rencontre de Georges Devreux pour Jimmy Picard, c'est quand même de voir qu'il y a une guérison possible, il esquisse une voie de sortie, un chemin hors de ses souffrances qui sont réelles pour le coup ici.
Parce qu'il est névrosé. Quand même, la psychanalyse a été faite pour les névrosés, au départ, pas pour les fous. Que ça puisse améliorer, que la cure par la parole puisse améliorer les schizophrènes, les fous, les psychotiques en général, oui. Mais guérir, non, non. Donc, il y a, enfin, guérir au sens de la névrose, de tel objet, de telle chose névrotique en soi, oui, ça, l'analyse, c'est la voie royale. D'ailleurs, dans Hitchcock, c'est montré aussi. Et je trouve que c'est bien montré. Devreux insiste. Il n'aurait pas du tout traité son patient de la même façon s'il avait eu un des schizophrènes délirants de Topeka.
Ouais.
Donc, en effet, en ce sens, c'est très actuel et c'est ce que j'aime beaucoup. Ça montre qu'une cure psychanalytique courte, bien menée, avec empathie, je suis favorable à ça, avec séance longue, avec analyse classique. Alors aujourd'hui, on est beaucoup moins édipien, on ferait pas tout ça. Mais enfin, la base de la cure analytique, c'est exactement ça. Et ça s'est beaucoup perdu, hélas. On fait des cures trop longues aujourd'hui, avec trop d'interprétations qui ne tiennent pas. Alors ça tient aussi à la situation actuelle. Là, il y a une situation particulière. C'est un grand hôpital. Mais le principe de la cure doit être comme ça. D'ailleurs, Freud menait des analyses de 6 mois en voyant les patients tous les jours, en privé. C'est l'idéal de l'analyse. Et là, vous l'avez bien montré.
Il se retrouve dans cette situation. Ce qui me plaît aussi, c'est que c'est pas pour des... Ce qui est toujours intéressant dans les films, c'est la trivialité. C'est qu'ils s'ennuient. C'est que l'un vient du Montana, l'autre vient de New York. Donc, je vous disais, ils sont exilés, l'un parce qu'il est indien, l'autre parce que c'est un juif européen. Mais ils sont exilés aussi, tout bêtement, de l'endroit où ils habitent, quoi. Et donc, ils se retrouvent dans ce no man's land au Kansas. Et ils n'ont rien d'autre à faire que cette tâche, que cette psychanalyse. Donc ce document formidable humain que nous avons, c'est-à-dire les minutes entières d'une psychanalyse, ce qui, je crois, Elisabeth, corrigez-moi si j'ai tort, qui est un document vraiment unique dans l'histoire de la psychanalyse.
Alors, un verbatim de cure complet,
c'est vertigineux, mais pas pour des raisons nobles, mais parce que tout bêtement, Devreux n'avait qu'un seul patient. Donc du coup, pas parce que c'était le meilleur psychanalyste du monde, mais si vous voulez, parce que c'était le plus humble, celui dont l'institution se méfiait. Alors il n'avait que celui-là à traiter.
Alors il y a une autre raison, c'est Topeka 1950, il y avait obligation de résultat. On n'était pas du tout dans le cadre de Freud ou d'autres qui reconstituent l'histoire du patient en l'écrivant, ou du patient qui reconstitue sa cure. Là, on est en fait dans l'évaluation, mais au meilleur sens du terme. On obligeait le verbatim, il était obligé de fournir les documents à l'hôpital. Donc, en effet, il était dans ce cadre qui permet d'avoir cette trace-là. D'ailleurs, vous disiez avec humour, on connaît tout de Jimmy Picard, y compris son cerveau et les radios, etc. Mais on n'a jamais retrouvé l'homme. Donc ça, c'était vraiment ce qui se passait dans cette clinique. D'ailleurs, vous montrez qu'à un moment donné, ils lui font ce dernier examen terrible qu'on ne fait plus du tout.
L'opsyencéphalogramme.
Oh là là, qui est un examen absolument...
J'adore ça.
On ne fait plus. Oui, mais on ne fait plus. Bon. Et Donc, il s'agit de bien, à la fin des fins, la clinique fournit toute la documentation, le cas doit être archivé avec tout l'aspect médical pour bien prouver qu'il n'avait aucune trace au cerveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même un traumatisme de guerre qui intervient. C'est-à-dire, ce que montre l'analyse, c'est à partir d'un traumatisme de guerre, ça, évidemment, les traumas de guerre existent, hein, Devreux découvre qu'il y en a un autre dans l'enfance. Et donc, n'oubliez pas qu'on soignait les vétérans qui avaient été victimes de ce qu'on appelait les névroses de guerre. On soignait les schizophrènes, les névroses de guerre, les Indiens, les vétérans.
Les délinquants aussi.
Les délinquants, mais bien sûr, Topeka était le plus grand hôpital psychiatrique du monde à l'époque, après le Burgosli en Suisse. Et donc, il y a une histoire de tout ça.
Et cette histoire-là est ressaisie au sein du film comme étant une toile de fond, à la fois le sujet du film et une toile de fond, puisque les personnages viennent s'immiscer dans ce contexte-là. Mais elle est au service aussi d'une autre réflexion, et j'aimerais qu'on y revienne, on l'a à peine esquissé. Le lien entre psychanalyse et cinéma est loin d'être anecdotique, et c'est pas simplement parce que vous filmez une cure dans ce film que je vous pose la question, Arnaud Desplechin, mais celui qui va soigner, le soignant, lorsqu'il est en cure avec son patient, procède comme un enquêteur. Il est à la recherche d'indices, de traces qui va lui permettre d'enquêter, justement, pour essayer de reconstituer soit une névrose initiale, soit un état de fait psychique à un moment donné. Il est dans la position de celui qui est à la recherche du sens, qui va se manifester souvent aux dépens du patient, sans qu'il se rende compte. C'est le principe de l'inconscient. En tant que cinéaste, la façon que vous pouvez avoir de filmer, d'essayer de faire surgir du sens à l'écran n'est pas si lointaine que cela. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une manière aussi avec l'image de recréer des échappées de sens, pour paraphraser, le philosophe Stanley Cavell, qui se demande dans son ouvrage La projection du monde, comment vient la pensée à l'écran, comment vient la signification au sein d'un film.
Mais je suis perdu d'admiration pour Stanley Cavell, vous le savez, c'est un homme qui est... Puis c'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est un homme exquis. Mais il y a cette chose très, très curieuse qui se passe un petit peu dans les rêves, qui est au cinéma, qui est très proche des rêves. C'est Cavell le dit, « What happens to reality when it's screened ?» Qu'est-ce qui arrive à la réalité quand elle est projetée ? Et il me semble que ce que Stanley Cavell arrive à articuler merveilleusement, c'est que tout d'un coup, quand vous prenez la réalité, l'entrée d'un train en gare de la Ciotat, et vous la projetez sur un écran. Et tout d'un coup, quand vous la projetez, cette image tremblotante, elle vient vibrer de significations possibles. Vous voyez, c'est en même temps un taureau qui fonce vers vous, c'est en même temps une menace, c'est en même temps une métaphore érotique de pénétration, c'est en même temps... C'est tout d'un coup, l'image se met à signifier mille et mille choses.
Alors qu'elle ne fait que reproduire ce que nous pourrions regarder.
Et il me semble qu'il se passe un petit peu la même chose avec les rêves, c'est tout d'un coup, on sent bien que ça nous parle, que ça dit quelque chose, que quelque chose là s'articule, mais on ne sait pas que l'écran poudroie de significations. À mon sens, en tout cas dans les films que j'aime. Vous parliez des films d'Hitchcock, on voit bien que la signification vient saturer l'écran. Mais alors on ne sait pas bien laquelle assigner, on attrape des bribes de signification. C'est ce moment où le monde cesse d'être ennuyeux ou morne, qui peut être le monde quotidien que je vois, où je suis dans l'illusion que le monde ne signifie rien. Mais quand je rentre dans la salle de cinéma et que je vois le monde projeté, tout d'un coup je me rends compte que quand je suis éveillé, l'essentiel m'échappe, puisque tout d'un coup ça signifie. Et il me semble que le cabinet de l'analyste a le même privilège, c'est tout d'un coup tas d'événements quotidiens dont on peut avoir l'illusion qu'ils sont mornes, tout d'un coup se mettent à vibrer de toutes leurs significations potentielles.
Et c'est aussi l'expérience que fait le spectateur du scepticisme au cinéma, puisque le monde qu'il voit projeté sur l'écran, il n'en fait pas partie. Et de même qu'il peut avoir l'impression que le monde dans lequel il vit ordinairement lui échappe, ne lui est pas familier, le monde qui est projeté n'est pas le sien. Si bien que le cinéma est une façon... de par les significations qu'il peut ouvrir ou la multiplicité de sens, de pouvoir se réconcilier, si c'est un thème qu'emploie Stanley Cavell, avec cette condition de scepticisme. C'est ici une grande responsabilité qui vous revient en tant que cinéaste.
Oui, ce n'est pas loin de cette façon, vous disiez aussi, de traquer, non pas de traquer, c'est de prendre par la main, d'accompagner les personnages, mais d'aller regarder le symptôme. Vous mentionnez la brûlure de Nora quand elle cache...
Dans Roi Zérène,
quand elle cache ce testament horrible que son père lui laisse pour la marquer comme une esclave, pour dire tu es mienne. Alors il y a ce témoignage de haine et d'amour en même temps pour lui dire voilà, tu m'appartiens, tu es ma chose. Alors elle se retrouve brûlée par son père comme ça. C'est d'aller chercher à quel moment l'acteur vous offre trébuche sur le texte et vient offrir quelque chose qui fait symptôme, qui vient faire symptôme, ou ça, je veux dire par là, qui vient faire sens, qui vient signifier quelque chose, qui vient signifier une ambiguïté. Et c'est ce travail-là que j'essaie de faire comme cinéaste.
Et en l'occurrence, cette ambiguïté, c'est pas seulement sur le travail de l'acteur, mais c'est au sein de l'image, puisque ce que l'on voit, c'est lorsque Nora reçoit cette lettre de son père, cette lettre pleine de haine de son propre père, et qu'elle la glisse dans sa jupe, sous sa chemise, pour la cacher. Au moment où elle la retire, elle voit qu'il y a cette brûlure. Oui. C'est ici une matérialisation de la douleur qui serait sans cela qui est réelle mais qui est intérieure.
Ça,
sauf que vous
ça,
la filmez. C'est un symptôme.
Quand le corps se met à parler, c'est passionnant. Quand vous avez c'est les personnages qui commencent à le vivre physiquement. Ça peut être de manière mélodramatique et tragique comme ça, comme vous voyez la lettre écarlate, des choses comme ça, comme dans Roi et Reine. Mais ça peut être de manière comique. Vous voyez, je pense au film muet. Vous voyez, quand vous voyez quelqu'un qui tombe de sa chaise, ça fait rigoler. Mais ça fait rigoler parce que ça signifie une espèce de burlesque dans cette chute de gens. Donc, ma passion pour filmer des gens qui tombent, vous voyez, c'est toujours de voir Mathieu tomber dans la rue. Vous le voyez qui trébuche et qui tombe. Et dans cette chute, il y a une élévation en même temps, une élévation vers un monde qui signifie au lieu d'être simplement fade.
Et pourtant, dans votre dernier film, Jimmy P, ce que vous filmez paraît beaucoup plus ordonné, en ordre, que dans ces deux derniers films, Condonneau, Les Rois et Reines. Est-ce un parti pris de votre part?
Oui, c'est vraiment le film est vraiment centré sur... C'est quelque chose qui me touche très fort, c'est cette phrase qui vient du livre que Devreux écrit juste après avoir rencontré son patient. Il dit les conditions nécessaires de l'amitié sont réunies. Et c'est ce qui me semble, quand je l'ai lu, en étudiant le livre, pas à la première lecture, mais c'est une phrase que j'ai trouvée qui avait un potentiel très choquant comme ça. C'est le fait quelle sorte de science,
oui,
est-ce la psychanalyse, qu'une science où il faut qu'il y ait des conditions d'amitié pour que ça marche.
Mais c'est absolument vrai, en plus.
Et il y a un scandale là que je trouve magnifique et utopique. Et c'est cette rencontre entre deux hommes, l'un qui vient de survivre à un génocide, l'autre dont le peuple a subi un ethnocide et qui a survécu. Et ce non-dit entre ces personnages était de filmer droitement la solitude de chacun d'eux et leur amitié. Il y avait le désir de faire un film droit sur cet objet-là qui m'aime beaucoup.
Et comme si le désir de faire un objet droit avait pour corollaire le fait de se dépouiller de toute forme de famille. Pour le coup. Puisqu'ici, nous les voyons, ces deux personnages sont absolument seuls. Il y a la sœur, mais la famille est très distante.
Il y a la sœur abusive, la mère amie, oui, mais la famille, tout d'un coup, ils en sont lestés. Oui. Mais ce qui me touche très fort aussi, mais vous en parleriez mieux que moi, c'est c'est ce rapport tourmenté que Devreux a avec son identité, cette façon qu'il a de ne vouloir avoir aucune identité, ce rêve universaliste qu'il a de déguiser son nom.
Puisqu'il a changé de nom dans la vraie vie. Ouais. Arnaud Desplechin,
de s'échapper de lui-même, quoi. En tout cas, dans le film, il est proposé comme ça, comme essayant d'échapper à une assignation, à une identité. Mais à l'inverse, de l'autre main, quand il est devant Jimmy, il reconnaît au contraire l'identité d'autrui. Alors, il y a cette question qui me semble une question qui est belle parce qu'elle n'a pas de réponse. Est-ce que nous sommes les mêmes ou est-ce que nous sommes différents? Alors, bien sûr, bien entendu que nous sommes les mêmes puisque nous sommes tous humains. Et pourtant, nous ne cessons de différer les uns des autres. Alors, je ne pense pas qu'il y ait une façon qui soit mieux de se comporter dans la vie, c'est-à-dire d'être Jimmy, c'est-à-dire de correspondre à son identité native, ou bien au contraire, comme Devreux, de dissembler de son identité d'origine. Et voilà, c'est la rencontre entre ces deux mondes et ces deux positions morales qui me touchaient très fort.
Le mot de la fin,
un point sur le changement de nom, là vraiment tous les juifs de cette époque assimilationniste d'Europe centrale changeaient de nom. Parce qu'ils avaient souvent des noms imprononçables, ça comptait beaucoup, et ils étaient assimilationnistes. Donc, Giorgi Dobbo, il a pris un nom Devreux dans un roman, et du coup, il est devenu Georges Devreux, ce qui est un nom français, à consonance française, parce que, comme tous les juifs d'Europe centrale, ils considéraient qu'il fallait sortir du ghetto, et pas seulement du ghetto juif, c'est-à-dire de l'assignation à résidence, en quelque sorte, mais de toute forme de ghetto. Il fallait s'adapter. Et c'est pour ça qu'il s'est converti au catholicisme, mais il a jamais nié. Il n'avait pas la haine de soi juive. Il avait une certaine haine de soi, mais pas spécifiquement juive. Il n'avait pas de dissimulation. D'ailleurs, dans le film, c'est très bien de ne pas l'avoir dit tout en le disant. C'est-à-dire, on comprend très bien qu'il est juif. D'ailleurs, ils sont tous juifs. Et l'histoire de la judéité du début de siècle est contemporaine de l'histoire de la psychanalyse. On ne peut pas On ne peut pas connaître l'histoire de la psychanalyse si on ne connaît pas l'histoire des Juifs d'Europe, début de siècle. Juste un mot aussi, l'histoire de la psychanalyse est contemporaine de l'histoire du cinéma. Ces deux histoires sont les mêmes. Et c'est les mêmes émigrations aux États-Unis. Et je pense que c'est pour ça que le cinéma américain est beaucoup plus imbibé que le cinéma européen de psychanalyse. Pourquoi ? Parce que c'est des mythes. Le cinéma américain fonctionne sur des mythes.
Alors nous pourrions
et la psychanalyse aussi.
Nous pourrions refaire toute une émission où l'on dirait cette fois-ci qu'en France, la psychanalyse a d'abord été dans le domaine de la littérature avant d'être au cinéma, alors qu'aux États-Unis, ce fut l'inverse. Mais malheureusement, nous sommes au terme de l'émission. Merci beaucoup Arnaud Desbléchins d'être venu nous parler de Jimmy P aujourd'hui, qui est sorti sur les écrans mercredi dernier. Je souhaite tout le succès qu'il mérite à ce petit dernier film. Et merci Elisabeth Rodinesco d'être venue à nos côtés aujourd'hui.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris de ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic mec et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas et puis quand c'est pas. Pour finir léché, trop sophistiqué c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher. Sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave. J'aime le challenge, porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur. Pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compas, fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Mes kiffs c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller, à déballer. Les conneries parlent juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher la.
Qu'est-ce que tu peux faire?
Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, de gêné, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarde des 12 mois. Par an, l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont tibas. Au pire, c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Pour ce genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné,
j'ai tourné.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Et oui, exceptionnellement, pas 2 minutes, mais 4 minutes aujourd'hui pour vous parler d'une collection inédite qui paraît chez Garnier Flammarion à l'occasion des 50 ans de la maison d'édition et qui met à l'honneur 8 œuvres décalées de la pensée. Voltaire, Chamfort, Rivarol, Becherel et tant d'autres, on connaît ces auteurs classiques, mais certaines de leurs œuvres nous sont pourtant inconnues. Certaines œuvres qui sont un peu, disons, décalées. Prenez par exemple Becherel, Louis-Nicolas Becherel. On a tous fréquenté les fameux manuels de grammaire qui portent son nom en son honneur. Mais on connaît moins, voire pas du tout, son art de briller en société et de se conduire dans toutes circonstances de la vie. Eh bien, les éditions Garnier Flammarion ont donc eu la bonne idée pour fêter leurs 50 ans, de publier cet art de briller en société de Becherel parmi 8 autres classiques décalés, 8 classiques à chaque fois présentés de manière originale et personnelle par un écrivain. Dans cette collection spéciale, on trouve ainsi Les Parisiens comme ils sont de Balzac, où la préface de Jérôme Garcin prend la forme d'un mail envoyé à Balzac lui-même pour lui faire part de ses impressions à la lecture de son texte. On trouve aussi entre autres Les Résolutions pour l'époque où je deviendrai vieux de Jonathan Swift, où Éric Chevillard se saisit de l'occasion pour faire un éloge de l'ironie, où on trouve encore le texte de Plutarque consacré à l'inconvénient d'avoir trop d'amis, présenté cette fois-ci par le philosophe et écrivain Vincent Delecroix, qui en profite pour faire une petite philosophie de la conversation. Cette collection est donc l'occasion non seulement pour nous de découvrir des textes inattendus d'auteurs classiques, des textes qui grincent dans leur œuvre, mais elle présente aussi l'originalité de donner à lire des œuvres qui, toutes, ont cet intérêt d'avoir une dimension pratique. Il ne s'agit pas vraiment de romans, de textes de fiction à proprement parler, ni d'œuvres philosophiques au sens strict du terme, même si à chaque fois sont développées en creux des philosophies de la paresse, par exemple de la conversation ou encore de la langue, mais il s'agit plutôt de traités. Et oui, ce sont bien des sortes de manuels, des traités qui ont une visée pratique. Avec ces ouvrages, on approche d'une philosophie comme celle des anciens, qui proposaient des manières de vivre. Qu'il s'agisse des résolutions de Swift, qui s'adresse tout autant à une femme de chambre qu'à un jeune poète, ou de la mise en garde de Voltaire contre la lecture, ces textes se lisent comme autant de pensées qui, sur un ton désinvolte et railleur, sont pleines de sagesse. Ces textes, en effet, nous éclairent, nous guident, mais ils ne le font pas en proposant des manières d'être, avec des conseils ou des recommandations, mais toujours en creux, en passant toujours par l'ironie. Il pointe ainsi des troubles que l'on ne soupçonne souvent pas, ce que cachent nos habitudes les plus triviales et ce qu'elles révèlent de nos travers. Parmi ces 8 textes, 2 révèlent bien ça. Prenons d'abord les résolutions de Swift. À la lecture de celle-ci, on peut être outré devant tant d'ironie. Ses diverses instructions aux cochers, aux laquais, aux domestiques en général, ou encore ses lettres à une jeune personne sur le point de se marier, ou enfin son traité des bonnes manières, sont autant de textes satiriques. Pris au premier degré, ils peuvent même être révoltants. Ses propos sur les femmes qu'il compare à des singes dont le seul divertissement est celui de se coiffer et de s'habiller, par exemple. Mais il faut bien y voir plus que de la misogynie, une manière de faire réagir les femmes sur leurs conditions bien trop complaisantes. Et oui, jusqu'à quel point pouvez-vous vous satisfaire de régler vos toilettes, leur demande-t-il. De la même manière, un autre texte, ce sont les pensées de Chamfort, présentées par le philosophe Frédéric Schifter, ne sont pas là pour fournir, à la manière d'une philosophie, une vision du monde, mais un regard sur le monde. Voilà ce que sont ces textes, ce sont des regards sur le monde. Chacun s'emploie ainsi à faire craquer le vernis des conventions, ce vernis qui recouvre les choses les plus banales, et pas seulement pour le plaisir d'un bon mot ou pour déclarer de manière péremptoire comment se comporter, mais surtout dans une optique démystifiante, une optique d'éveil. Il s'agit donc d'une collection inédite qui paraît chez Garnier Flammarion à l'occasion des 50 ans de la maison d'édition et vous trouverez 8 ouvrages, 8 œuvres décalées de la pensée.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve lundi prochain ou aujourd'hui même pour les Lillois d'entre vous. Et oui, d'aujourd'hui à dimanche, nous allons installer nos micros au festival Cité Philo de Lille. Aujourd'hui à 15h, je recevrai Souleymane Bachir Diagne pour se demander ce qu'est la philosophie africaine. Demain à 18h, toujours Souleymane Bachir Diagne et Jean-Louis Ancel viendront parler de post-colonialisme. Et comme on n'y reste que jusqu'à dimanche, vous pourrez retrouver tout le programme en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. 5 émissions enregistrées donc à Lille pour le festival Cité Philo qui porte, vous l'aurez deviné, sur la philosophie africaine et que vous pourrez découvrir de lundi à vendredi la semaine prochaine dans les Nouveaux Chemins. Et si ce week-end vous voulez une double dose de philosophie, rendez-vous dimanche à 16h pour le Gai Savoir de Raphaël Antoven et Paola Riemann. Raphaël et Paola qui vous parleront à nouveau ce dimanche du troisième livre de l'éthique de Spinoza. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et vous pourrez surtout la télécharger et la podcaster pendant 1000 jours afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est l'heure de votre nouveau rendez-vous, Le Temps des Libraires, par Christophe Onodibio, et puis à 11h, Culture Monde, par Florian Delorme.